Please, delegates, I think it's time to.
Il est temps de reprendre les travaux. Nous allons essayer de mettre un point final à ce point de l'ordre du jour le plus vite possible si on veut rester dans les temps, ce qu'on essaie toujours de faire. Donc j'aimerais qu'on reprenne l'objectif 3, donc à la page 10 du document en anglais, pour le renforcement des capacités de gestion des travaux du codex. Il y a un certain nombre de points que l'on soumet à vos commentaires. Donc 3.1, examen des critères pour l'établissement des priorités de travail et des procédures d'examen critique effectuées par le comité exécutif. Est-ce qu'on souhaite conserver ce point dans le document? Je ne vois pas de réaction. Donc je suppose à membre pour l'Europe. Merci. Nous avons entendu parler de l'importance de l'examen critique du comité exécutif. Je crois qu'il est important de garder ce point à l'esprit. Il s'agit d'une activité d'affaires qui n'a pas la même importance que le plan stratégique. Mais peut-être qu'il serait bon d'avoir une session du comité exécutif qui se penche sur l'évaluation de notre efficacité par rapport à nos conseils, nos avis. Est-ce qu'ils ont aidé à l'établissement des normes et quel a été l'effet, l'impact de notre rôle d'examinateur critique? Je crois qu'il est intéressant de citer ce travail d'examen. Donc oui, nous avons achevé l'introduction des fonctions, mais maintenant il faut savoir dans quelle mesure nous avons pu effectuer ces changements. Merci aux membres pour l'Europe. Je pense que c'est une bonne idée. Il faut avoir le courage de s'observer et s'évaluer soi-même. Donc, ce sera pris en compte dans les délibérations à venir. Merci beaucoup pour ce point qui n'avait pas jusqu'alors été inclus dans le texte. Nous passons donc au point 3.2. Garantir une gestion efficace et économe des normes. Donc on a juste ajouté économe, j'espère que cela vous convient. Si évidemment vous êtes d'accord avec le point, le sens général de ce point 3.2. Je ne vois pas de demande de commentaire. Donc 3.3, établir des critères de prise de décision spécifiques au comité et d'établissement des priorités en suivant une pratique qui permette de prendre en compte de nouvelles questions dans les délais. Donc il y a eu un ajout, si vous regardez la page 11, on a un ajout également qui nous dit que ce comité doit décider le cas échéant de la manière dont cette activité sera incluse, puisque elle est censée s'achever au cours du calendrier prévu dans le plan stratégique actuel.
May I make the comment on...
Alors, par rapport à toi, 3.3, ici, il s'agit d'une question qui avait déjà été soulevée par le membre de l'Amérique du Nord, qui nous disait qu'il fallait qu'on se tourne vers l'avenir. Donc, on pourra décider, bien sûr, de maintenir cette section. Tout en observant, en reconsidérant sa structure, de manière à faire d'une pierre deux coups. Je vois que vous y consentez. Merci. 3.4 a été rayé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Donc nous poursuivons. 3.5. Donc 3.5, encourager les comités à adopter et mettre en place les bonnes pratiques identifiées à la suite du plan stratégique 2008-2013, activité 3.5, tel que résumé dans l'alinéum 10.33.3a. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que nous devrions encourager les comités à le faire. Donc, pas de réaction. Ensuite, on a un nouveau point, 3.5.1, encourager l'utilisation des groupes de travail pré-session lors des réunions du comité pour accélérer le dégagement d'accords par rapport aux normes. Donc, tout dépend du nombre de comités que l'on a et de groupes de travail que l'on a, etc. Donc, c'est une proposition visant à inclure dans le plan stratégique un point portant sur l'organisation des groupes de travail de façon à ce qu'on ait des groupes de travail qui se réunissent avant les sessions. Est-ce que c'est une idée qu'on devrait conserver dans le texte? Je vois que le membre pour l'Europe souhaite commenter ce point. Merci, Monsieur le Président. C'est au niveau du libellé. Il s'agit du plan stratégique du Codex. Et là, on parle d'encourager l'utilisation. Je ne sais pas qui est à l'origine de ces encouragements. Est-ce que ce sont les activités d'affaires ou le plan d'affaires qui stipule que c'est le Codex qui va utiliser les groupes de travail? Est-ce que c'est une déclaration d'intention? Ou est-ce que ce sont des encouragements? Je crois que c'est plutôt une déclaration d'intention. Merci aux membres pour l'Europe. Oui, c'est effectivement le cas, je crois. Donc nous allons noter votre idée qui sera abordée au cours des discussions. Il y a un commentaire du Pacifique Sud-Ouest. Donc, ça ne me gêne pas de conserver ce point, tout en prenant en compte ce qu'a dit le membre pour l'Europe. Sa remarque est tout à fait valable. Néanmoins, j'ai l'impression que ces groupes de travail pré-session sont tout à fait normaux et on les utilise de manière régulière. Donc, je me demande s'il est toujours utile d'avoir cette idée ou peut-être qu'il faudrait la reformuler. En insistant sur l'idée qui les justifie, c'est-à-dire accélérer les travaux, et donc les groupes de travail peuvent aider justement à l'accélération des travaux. Donc je me demandais si cet encouragement était toujours pertinent, si c'était une action qu'il fallait toujours continuer d'encourager dans le cadre de ce plan stratégique qui s'étendra de 2014 à 2019. Donc oui, peut-être qu'on souhaite conserver cette activité puisqu'on la juge incomplète, ou alors on peut juger qu'elle fait partie intégrante des pratiques régulières du Codex.
Merci aux membres pacifiques du Sud-Ouest. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. On pourrait demander à Madame le Secrétaire parce que il ne s'agit peut-être pas de dire simplement ce qui est évident. Donc, Madame la Secrétaire pourrait peut-être nous aider. Est-ce que ce texte est nécessaire ou pas? Merci, Monsieur le Président. Plusieurs comités, étaient structurés en tant que groupe de travail, comité sur les additifs, par exemple, ou d'autres. Ont des groupes de travail qui se réunissent régulièrement. Après, ça dépend de la charge de travail pour chaque comité. C'est peut-être justifié pendant une session, pas pendant une autre. Parfois, on prolonge la durée des sessions d'un jour, de 5 à 6 jours. Ça dépend un petit peu de la charge de travail du comité. Certains comité préfère prolonger leur travail pendant un jour. Mais comme dit, certains comités en ont de manière régulière parce qu'ils ont des priorités. C'est le comité de sécurité sanitaire de produits alimentaires, par exemple. Donc, ça dépend vraiment des comités. Ça dépend de la charge de travail de chacun d'entre eux. Merci. Merci, Madame la Secrétaire. Prenons bonne note de la remarque qui a été faite par le membre du Pacifique du Sud-Ouest. Et puis, on va réfléchir pour voir s'il est nécessaire que ce point figure dans le plan. Ou alors, on pourrait peut-être simplement dire que c'est déjà la pratique dans la plupart des comités. Et donc, la décision finale leur appartient. Donc, on tient compte de ce commentaire. On en discutera, simplement parce qu'on n'a pas les bases nécessaires pour adopter une décision définitive. Mais avant de conclure, je vois encore la pancarte de notre membre d'Amérique du Nord. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais peut-être simplement une précision. Qu'est-ce qu'on cherche à réaliser avec ce point? Je crois que ça ne concerne pas simplement les groupes de travail structurés qui existent déjà dans plusieurs comités. C'est de cette manière-là que j'ai lu cette activité. Ce qu'on demande, c'est des mécanismes de facilitation, c'est-à-dire des réunions avant les sessions, dont le but est d'éviter tout malentendu concernant les normes, donc simplement pour faire progresser le travail. Donc si on veut généraliser cette pratique, c'est dans ce but-là. Et en effet, voilà un élément que nous cherchons à promouvoir, notamment pour concrétiser nos processus opérationnels. Merci. Je crois que vous avez été très éloquent pour expliquer ce que nous entendions lorsque nous avons rédigé ce texte. Donc on va le conserver pour l'instant, on en rediscutera. On le modifiera éventuellement simplement pour décrire de manière plus précise l'objectif que nous souhaitons réaliser. Voilà, je pense que ceci est acceptable pour le comité exécutif. Et nous passons maintenant au 3.5b, examiner les conditions pour le maintien des normes à l'étape 8. Ça n'est pas une mince affaire, mais je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut continuer à travailler là-dessus pour essayer d'éviter ce genre de situation dans la mesure du possible, bien que nous sachions que ce n'est pas simple, que c'est difficile, mais néanmoins, il va falloir continuer à y réfléchir. Donc je pense que ce point est tout à fait pertinent dans le plan, il n'y a pas d'objection, on le garde. On a mis en majuscule que le comité exécutif devrait décider, parce qu'il y a des travaux en cours. Bon, on peut toujours rêver, si jamais il règle le problème, on pourra toujours supprimer cela quand on achèvera le plan stratégique, mais soyons réalistes quand même. J'ai l'impression que vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au 3.6. Mettre en œuvre. Mettre en œuvre une sorte de comptabilité en fonction des priorités de toutes les demandes d'avis scientifiques. Très bien, pas d'objection en garde. Ensuite, on a deux paragraphes qui ont été supprimés, le 3.7 et le 3.8. Pas d'objection? Non, et donc j'imagine que vous êtes d'accord avec ces suppressions. Il y a un nouveau paragraphe 3.9. Augmenter l'utilisation des traductions assistées par machine des documents du codex. Alors on en a déjà discuté. On s'est demandé comment améliorer la situation et souvent nous savons que nous avons des problèmes parce que les traductions des documents arrivent tardivement, ça crée des frustrations, des problèmes. Par ailleurs, c'est également un facteur de coût. Donc l'idée, c'est simplement qu'il faut continuer à y réfléchir pour essayer d'améliorer la situation. Et donc on pourrait en effet tester d'éventuelles solutions. L'idée étant d'améliorer l'efficacité du travail des groupes et des comités. Il n'y a pas d'objection, je crois. Mais je vois que le membre de l'Amérique du Nord a levé sa pancarte. Merci, je voulais simplement faire une petite remarque sur le 3-9, le 3-10 et le 3-11. J'espère que quand on progressera, on ne restera pas accroché à ces éléments, car ce dont il s'agit, c'est simplement de trouver de nouvelles technologies pour permettre un meilleur fonctionnement de l'organisation. Ça, c'est trois exemples. C'est simplement des idées. Et il ne faudrait pas se tenir à cela seulement. J'espère que le groupe s'intéressera également à d'autres éléments éventuellement pour réaliser cet objectif. Merci aux membres de l'Amérique du Nord. Vous avez tout à fait raison. Notre idée, c'est d'améliorer la situation. Et nous savons tous qu'il y a de nouvelles technologies qui apparaissent, à la fois pour la traduction, des réunions virtuelles utilisant Internet. Donc ce sont des médias qui peuvent être utilisés pour faire le travail du codex. Donc il ne faudrait pas passer à côté. Et il faudra utiliser les technologies futures à notre disposition pour accélérer nos travaux. C'est ce qui nous intéresse et c'est donc l'idée d'inclure ces mesures. Donc il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de réaction concernant le 3.9. 3.10, accroître l'utilisation des réunions virtuelles utilisant Internet. Oui, comme dit, il y a de nouvelles technologies, c'est plus facile à utiliser. Ça développe et décuple les capacités des États membres. Donc, évidemment, on utilise ces technologies pour autant que les États membres aient la capacité ou la possibilité de les utiliser. Parce qu'il ne s'agit pas d'exclure quiconque, au contraire. Y a-t-il des réactions? Non. 3.11. Mesurer et améliorer l'efficacité des processus actuels de présentation des commentaires. Encore une idée à creuser. Il s'agit de suivre de près l'efficacité des activités du codex. Pas de réaction, merci. Et pour terminer, eh bien nous avons terminé l'objectif 3, nous passons à l'objectif 4. Le membre pour l'Europe. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi de revenir au 3.11. Parfois, on va recevoir des commentaires en retard dans les comités. Mais si on parle d'améliorer l'efficacité, eh bien, je crois qu'il faudrait encourager les gens à envoyer leurs commentaires dans les délais. S'ils arrivent en retard, eh bien, il faudrait que ce soit quand même des exceptions. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait demander au comité de faire des audits, de voir combien de commentaires ont été reçus avant ou après l'échéance. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je pense que on pourrait dire les choses de manière plus positive et simplement encourager les gens à envoyer des commentaires dans les temps. Voilà. Je vois que le président sourit, donc certains ont peut-être d'autres commentaires à faire. Merci aux membres pour l'Europe. Vos commentaires sont tout à fait pertinents. Oui, en effet, il faudra tout d'abord voir la situation, voir dans quelle mesure ça pose des problèmes. Mais en même temps, on pourrait aussi encourager les gens à respecter les délais, parce que nous savons tous que ça crée des problèmes quand on ne respecte pas les délais. Souvent, on n'a pas le temps de lire les documents, on a du mal à assurer la traduction, etc. Donc nous prenons bonne note du fait qu'il faudrait peut-être explorer les deux aspects. Donc merci de votre commentaire.
think the secretariat has a comment, so I would like the secretariat, please.
Je donne la parole au secrétariat pour un commentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cela fait un certain temps qu'au secrétariat, on se disait que la façon de recevoir les commentaires actuellement s'est un petit peu dépassée, parce qu'on reçoit des emails, et plus on en reçoit, et plus la boîte est remplie. Et parfois, il est vrai que les commentaires se perdent, ou alors ils rentrent dans, non pas le courriel, mais le pourriel. Et donc, on pourrait prévoir d'autres moyens pour déposer des courriels dans une boîte de réception. Donc, en fait, je crois qu'il faudrait rendre le site web plus interactif. Mais la solution existe. Récemment, on était dans un atelier avec nos collègues du GIEC, et nous avons élaboré un système qui recevra les commentaires et qui va même les mettre dans le même document. Donc, après l'été, nous avons l'intention d'examiner ce qu'ils font de leur côté, parce que ils nous ont dit que si jamais on pouvait l'utiliser, ils pouvaient adapter le système à nos besoins. C'est la raison pour laquelle on s'était dit qu'on pourrait peut-être travailler de manière plus étroite avec le GIEC, parce que nous avons les mêmes problèmes, et donc on va en discuter avec eux et avec la FAO à l'avenir.
Thank you, Secretariat.
Merci au secrétariat. Je crois que ce ne serait pas une mauvaise chose qu'on inclue cette idée, c'est-à-dire l'élaboration d'un nouveau système dans ce point 3.11. Parce qu'il y a peut-être des idées, il y a peut-être des possibilités techniques qu'on pourrait utiliser, et donc je suis certain que tout le monde sera d'accord pour que on aille dans ce sens. Donc en effet, je crois qu'il faudrait mettre ça dans le texte. Je pense que on devrait également se fixer comme objectif qu'il faudrait utiliser les nouvelles possibilités techniques pour améliorer l'efficacité de notre travail. Donc merci au secrétariat d'avoir contribué cette idée à cette discussion. Voilà, donc c'était le dernier commentaire concernant l'objectif 3. Nous passons à l'objectif 4, promouvoir la coopération entre le Codex et d'autres organisations internationales pertinentes. 4.1, identifier et suivre les activités d'autres organismes de normalisation internationaux. Personne n'est contre, tout le monde reconnaît que c'est important, parce que c'est vrai qu'il est important de coopérer avec ces autres organisations. Très bien, je vois que vous êtes d'accord. Nous le gardons. 4.2, encourageons les contributions... encourager les contributions du Codex aux activités d'autres organismes internationaux. C'est ce que nous souhaitons tous faire, pas d'objection. 4.3, encourager les contributions d'autres organismes internationaux dans les activités du Codex. C'est vice-versa, en quelque sorte. Je pense que les deux sont importants. Pas de réaction, merci. 4.4. Envisager une coopération avec d'autres organisations intergouvernementales internationales pertinentes. Des commentaires? Non, on le garde. Merci. 4.5. Promouvoir la coordination interdisciplinaire à l'échelon régional et national. Des commentaires? Non, apparemment. On le garde. 4.6. Encourager la participation des organisations de normalisation privée internationale en tant qu'observateur à la commission du Codex. On en a déjà parlé, donc il faudra que le groupe de travail poursuive cette discussion. Pas d'objection, donc... nous conservons ce point. Merci. Et nous passons maintenant au point suivant. Objectif 5, promouvoir une participation maximale et efficace des membres. 5.1. Promouvoir la participation accrue des pays en développement au Codex. Pas d'objection, je crois. Merci beaucoup. 5.2. Promouvoir l'utilisation effective des commentaires écrits dans le processus du Codex. Ça aussi, je crois que c'est une évidence qui saute aux yeux à tout le monde. On le garde. 5.3. Évaluer l'efficacité des sessions du comité Codex organisées dans des pays en développement. Des réactions? Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on décide si cette activité va être incluse ou pas. Parce qu'il est prévu que l'activité s'achève. Elle s'est déjà achevée pendant la période de ce plan stratégique, donc on devrait peut-être la supprimer. Le membre de l'Amérique du Nord. Oui, très rapidement. J'espère que le groupe va considérer ces activités comme étant des idées, en tout cas pour ce qui est de la promotion de la participation active et maximale des États membres. Je crois que il faut avoir l'esprit un petit peu plus large. Et je pense qu'il faudrait également le faire en fonction d'une évaluation des besoins.
Thank you. North America, I'm sure.
Merci. À l'Amérique du Nord, eh bien, ça fera partie des discussions du groupe de travail. On va peut-être remanier le paragraphe pour l'affiner, pour le rendre plus précis que cela est le cas actuellement. Et donc je propose que le 5.3, évaluer l'efficacité des sessions des comités du Codex tenus dans des pays en développement, soit supprimé. Parce que ce type d'évaluation a déjà été faite. Donc dans le plan, prévoir une nouvelle évaluation, ça n'apporterait pas grand-chose. Si nécessaire, pour des raisons imprévu, eh bien, on pourrait tout à fait décider de le faire. Donc, si vous êtes d'accord, eh bien, on va supprimer le 5.3, parce qu'à mon avis, ça n'apporte rien. Pas d'objection, c'est accepté. Nous passons au 5.4a. Description. Augmenter la participation et le renforcement des capacités dans les pays en développement. La commission du Codex devrait encourager les activités de mentorat et de jumelage entre les pays qui accueillent des comités de codex et des pays en développement ayant plus ou moins d'expérience. C'est nouveau. Ça fait partie des contributions des comités régionaux. Il n'y a pas de réaction, pas d'objection, on le garde. 5. Renforcer la participation des organisations non gouvernementales au niveau international, régional et national. Non, pardon, c'était le 5.4. Renforcer les points de contact du Codex et les comités nationaux du Codex. 5.4. On le garde dans le texte, il n'y a pas d'objection. D'accord. Et maintenant, nous passons au 5.5. Renforcer la participation des organisations non gouvernementales au niveau international, régional et national. Il faut inclure tout le monde. Donc, je crois qu'il faut le conserver dans le plan stratégique. Il n'y a pas de réaction, d'accord. 5.6, améliorer la communication de l'information sur les travaux du Codex au niveau international et national, c'est une bonne idée.
Again, I take silence for acceptance. FAO, FAO, please.
Qui ne dit mot consent, la FAO. Je voulais simplement en profiter pour demander une précision. Je sais qu'on a déjà commencé à travailler là-dessus, à la FAO, à l'OMS, et bientôt ce travail sera confié au groupe dont je suis responsable. Donc le moment est venu d'avoir quelques précisions. Dans le titre, on parle du manuel Codex pour les négociations, pour les délégations, etc. Enfin, on parle des délégués, d'accord, mais également des points de contact du codex. Est-ce que vous êtes sûr que les points de contact du codex doivent être inclus, doivent être couverts par ce manuel? Et puis, généralement, la FAO et l'OMS ne s'occupent pas de la formation des présidents. Donc, est-ce qu'on pourrait me donner quelques précisions?
Thank you, FAO. We also...
Merci, la FAO, le membre du Pacifique du Sud-Ouest. Il y a plusieurs remarques que je voulais faire. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on identifie ou pourquoi est-ce qu'on parle ici de négociation et de médiation? En fait, nous avons fait un certain nombre d'expériences dans le passé. Je ne sais pas si de bonnes capacités de négociation vous permettent de réaliser l'objectif plus facilement. Maintenant, pour les nouveaux présidents qui arrivent au Codex, si on veut leur donner de nouvelles compétences, je crois que c'est une bonne idée. Cela étant dit, c'est différent pour les points de contact du Codex. Car à ce niveau-là, il y a un certain nombre de points de contact très compétents dans le monde. Et donc, on pourrait tenir compte de leur façon de procéder, puis tenir compte également de leur relation avec le secrétariat. Il y a certainement des enseignements à tirer, et donc on pourrait le faire, tirer les enseignements pour préparer un document qui pourrait être partagé. Cela étant dit, pour ce qui est des présidents, ce ne serait peut-être pas la même chose. Et pour ce qui est des délégués, de la médiation, peut-être plus difficile. Lors des premières sessions, il faut peut-être faire un petit peu le point, leur dire comment on travaille, quelles sont les procédures de travail. Alors, c'est peut-être utile pour les nouveaux délégués qui participent pour la première fois à certaines réunions. Donc, à les nouveaux délégués qui n'ont jamais participé, bon, ça peut être bien, ça peut être efficace. Donc, il faudrait peut-être réfléchir aux outils ou aux procédures à prévoir pour leur permettre de mieux participer à la discussion des points de l'ordre du jour. Voilà simplement quelques petites réflexions que je voulais livrer. Merci aux membres du Pacifique du Sud-Ouest. Le membre de l'Afrique.
Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis d'accord avec ce que mon prédécesseur a dit, mais j'ai l'impression que pour ce point, on aurait pu faire l'économie des points de contact. Parce que dans le point 5.4, on parle de l'enforcement des points de contact et des comités nationaux. Je pense que pour tout ce qui concerne les points de contact, on peut le prendre en compte dans ce point. Et ici, au point 7, s'en tenir effectivement aux délégués et aux présidents par rapport aux capacités de négociation. Merci.
Thank you, member from Africa.
Je remercie le membre pour l'Afrique. Je conclus des interventions qu'on vient d'entendre que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il faut faire quelque chose dans le système en général pour former, pour aider, pour développer les compétences des personnes qui sont chargées de négocier ou alors de participer aux activités du Codex. Parce que c'est dans l'intérêt de tous que les gens sachent de quoi il s'agit, qu'ils aient les compétences et qu'ils puissent mieux participer aux activités. et qu'ils puissent également mieux défendre leurs intérêts. Je pense que ça fait partie du jeu et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ensuite, on peut discuter pour voir s'il faut limiter ces efforts aux présidents des groupes ou alors si on inclut également les points de contact du codex ou pas. On pourra aussi discuter pour voir si le développement des capacités, des points de contact, ça peut faire partie du renforcement des capacités plutôt que de la formation. Ça dépend peut-être de l'avis des présidents des différents groupes. Enfin bon, en général, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une question sur laquelle il faut continuer à travailler. Et il y a aussi la question qui a été posée par la FAO qui souhaiterait avoir une description plus précise. Donc ça, c'est quelque chose qui doit faire partie du travail qui doit se poursuivre au sein du groupe de travail. Donc je prends bonne note des remarques qui ont été faites. Mais avant de passer à autre chose, eh bien, je donne la parole aux membres du CCLAC.
Merci, Monsieur le Président. Nous ne savons pas quel est le contenu de ce manuel de négociation. Par conséquent, nous ne pouvons pas savoir à qui il s'adresse. Donc, s'il s'agit d'un manuel de négociation, il serait très bon de l'inclure dans le renforcement des capacités et qu'il concerne aussi bien les points de contact que les représentants. Donc, je crois que si on a des délégués, ces derniers devraient, tous les délégués devraient avoir des capacités de négociation ou d'agir en tant qu'intermédiaire, qui sont différentes des capacités que devrait avoir un président, par exemple. Bon, évidemment, il faudrait discuter des capacités que devrait avoir un président. Par exemple, il faut qu'il soit impartial, alors qu'un négociateur, quant à lui, n'a pas forcément à être impartial. Merci.
Thank you, member for...
Merci aux membres du CCLAC. Je crois que vous enfoncez le clou. Maintenant, on n'oubliera pas cette question, qui est très importante. À mon sens, il n'y a pas de contradiction. Si on peut inclure 5-8 dans ces délibérations, donc encourager la FAO et l'OMS à continuer de fournir des programmes de renforcement des capacités, et ce qu'on a en 5.7, encourager la FAO et l'OMS à utiliser donc le manuel sur la négociation, tout cela s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités. Ce sont divers éléments. Donc peut-être que ces deux points, 5.7 et 5.8, devraient être abordés comme un ensemble. On pourrait envisager cela, et je crois que ce serait tout à fait valable. Voilà comment je comprends la discussion, en tout cas. Merci en tout cas pour ces commentaires. Nous les prendrons en compte. Et en tant que président, je dois m'assurer donc d'inclure 5-8. Je n'ai pas demandé de commentaires spécifiques, mais je devrais vous inviter à commenter avant de me mettre à mélanger ces deux points. Je m'excuse de peut-être cette imprécision ou peut-être que je vais trop vite. Donc des commentaires par rapport à 5.8. Donc encourager la FAO et l'OMS à continuer. Bon, je crois que ces deux éléments, comme je viens de le dire, sont l'endroit et le revers de la même pièce, je crois. Donc, et nous laisserons au groupe de travail peaufiner cela. Bref, nous avons passé en revue l'entièreté du document. Nous nous félicitons des bonnes contributions et des très bonnes idées qui ont été exprimées. J'espère que nous avons pu noter tous ces éléments essentiels. Il y a déjà longtemps, nous sommes mis d'accord sur ce que nous souhaitions faire dans le cadre de la procédure normal, c'est-à-dire établir un groupe de travail. Mais avant d'arriver aux questions plus officielles, j'aimerais... Bon, j'ai déjà dit quelque chose par rapport à ma présentation de ce point de l'ordre du jour, mais j'aimerais répéter que lorsque le bureau a élaboré ce document que nous venons de parcourir, il n'avait aucune intention de porter préjudice au nouveau plan stratégique ou de deviner à quoi il ressemblerait. Nous avons simplement essayé de tenir compte des réactions des comités régionaux et en les résumer et inclure tout cela dans le document. J'espère que nous avons réussi dans cette tâche. Toujours est-il qu'il était très important d'avoir ces discussions et de connaître vos positions. Alors, dès le départ, j'ai dit que la prochaine étape serait la suivante. Le bureau établira un texte qui sera ensuite transmis sous forme de lettres circulaires. Mais en raison de toutes les idées qui ont été exprimées par ce comité, nous avons modifié la proposition de procédure de façon à éviter que le bureau reprépare, rédige de nouveau ce document tout de suite. On établit son groupe de travail électronique, une très bonne idée de l'Amérique du Nord. Et je suis très heureux d'adopter cette idée. Et je suggère qu'on établisse un groupe électronique, donc un groupe de travail, et que les membres du groupe soient identifiés au sein du comité exécutif. Et au nom de l'inclusion, de l'inclusivité et de l'économie des ressources, nous ayons un groupe avec des membres de toutes les régions, mais qui reste d'une taille limitée. Bon, il faudrait essayer de faire les deux en même temps. Donc je suggère qu'on ait un groupe de travail avec un représentant de chaque région, que ce soit un membre ou un coordinateur. C'est à vous de choisir. C'est à vous de voir. Mais cela nous permettrait d'être inclusif, de couvrir toutes les régions du monde, tout en conservant un groupe en nombre assez limité, ce qui nous permettrait d'être les plus efficaces possibles. Je vois que cette idée a l'air de plaire à tout le monde, je ne vois pas de réaction. Donc je pense qu'il faudrait procéder ainsi, si cela vous convient. Membre pour l'Europe, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait d'accord avec cela, je crois que c'est une très bonne idée. Est-ce que vous pourriez simplement nous donner une idée de la date de ces nominations et à qui ces nominations devraient être remises, puisqu'il y a plusieurs membres de ce comité exécutif qui seront remplacés à la suite des élections de la semaine prochaine? Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui occuperont ces mêmes places. Donc les appels à candidature, est-ce qu'ils se font d'ici au début du mois de septembre auprès du secrétariat du collège? Je pensais qu'il était utile de rappeler ce point. Merci aux membres pour l'Europe, merci de nous rappeler cela. J'aurais dû inclure cela dans mes commentaires, puisque bien évidemment vous avez raison, on ne peut pas faire de nomination sur la base des personnes qui sont présentes aujourd'hui dans cette salle, puisqu'un certain nombre de ces personnes, un certain nombre de pays seront changés au cours de la session de la Commission. Donc il faut garder cela à l'esprit. Mais avant de conclure sur ce point, je vois que le membre pour l'Amérique du Nord souhaite prendre la parole. Bon, je m'exprime en tant que région, qui ne va pas changer lors de la prochaine région. Je ne sais pas s'il y a une région qui souhaiterait diriger ce groupe de travail, peut-être.
Thank you, member for North America.
Merci aux membres pour l'Amérique du Nord. Alors, vous avez déjà abordé le point suivant. Si vous êtes candidate et que vous souhaitez diriger ce groupe, eh bien, pas de problème. Excusez-moi d'être aussi direct, mais je suis sûr que votre candidature serait tout à fait bienvenue. Et je n'ai vu personne se précipiter pour prendre la parole. Bon, il y a toujours une possibilité pour que d'autres se présentent, s'ils le souhaitent, bien sûr, s'ils souhaitent diriger ce groupe. Mais je ne vois pas de réaction, donc je crois qu'on peut remercier les États-Unis d'assumer donc la direction de ce groupe. C'est un groupe important. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'échanges sur Internet concernant les points à discuter. Mais je suis sûr que de nouvelles idées se feront jour, d'ailleurs, qui nous proviendront de diverses parties du monde. Mais Pour ce qui est de l'appel à candidature, j'aimerais donner la... Alors, suggérer, pardon, que les noms des membres soient envoyés au secrétariat d'ici au 1er septembre, au plus tard. Nous avons la réunion donc de la commission la semaine prochaine, et je crois que beaucoup de gens souhaiteraient prendre des vacances. Et peut-être, bon, si c'est trop tard, eh bien, écoutez, faites vos commentaires, c'est juste une proposition que je suis en train de vous faire. N'hésitez pas à intervenir.
Please, please, delegates, we just had a little chat.
Pardonnez-nous, nous avons eu une petite, un petit conciliabule. Et avant de conclure sur ce point, je vois la demande de parole de Madame la membre du CCLAC. Merci, Monsieur le Président. Juste une question. Ce groupe limité rentrerait dans le cadre des fonctions du président de la commission qui consiste à réunir des groupes pour en traiter de thèmes spécifiques? Parce que si ce n'est pas le cas, comment ferions-nous pour limiter la participation des membres du Codex dans un groupe donné? C'est la question que je me pose. Les autorités du Codex peuvent assigner des tâches à des groupes spécifiques dans le cadre du comité exécutif. Et ce groupe ferait partie de cette description, correspondrait à cette description?
Thank you, member from CCLAC.
Merci au CCLAC. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est une décision qui a été prise par le comité exécutif par rapport à la marche à suivre sur la question. Et je crois que la décision revient à nous de savoir comment on souhaite procéder. Nous devrions, à mon sens, nous en tenir à nos conclusions.
Sorry for this little, interruption. We just...
Pardonnez cette petite interruption. Il faut juste s'assurer que l'on ne fait pas d'erreur. Donc nous maintenons l'idée d'établissement de ce groupe, et ce n'est pas un groupe de travail que l'on établit. À titre officiel, c'est un sous-comité. Je crois que ça ne gênerait personne d'avoir un titre plus précis par rapport à ce groupe de travail. Donc voilà comment nous allons procéder. Et j'aimerais ajouter un autre point quant à ma proposition de composition du groupe de travail. Je crois qu'il serait sage de choisir que le groupe fasse partie du groupe de travail pour poursuivre les travaux qui ont fait l'objet de nos discussions. Et il y a beaucoup de participants qui vont changer, puisqu'on a les élections pour le bureau la semaine prochaine, et il y a des coordinateurs ou des membres qui seront remplacés en fonction de divers calendriers. Voilà pourquoi on ne peut faire des appels à candidature qu'après ces changements. Voilà pourquoi les régions devraient décider des personnes qui vont devenir membres. Est-ce que ce sont les membres ou le coordinateur? Cela devrait être décidé au niveau des régions. Après quoi, nous serons prêts à entamer nos travaux et nous serons heureux de transmettre la direction de ces efforts au président du groupe de travail. Une fois qu'on aura décidé de tout cela et qu'on aura transmis au secrétariat donc les points de contact et les adresses e-mail, etc., sur la base des conclusions que l'on a tirées aujourd'hui, qui seront inscrites dans le rapport de la réunion de ce comité. Je vois des acquiescements, je ne vois pas de protestations.
Please, delegates. May I...
S'il vous plaît, puis-je reprendre les discussions? Nous avons reçu des conseils juridiques de notre secrétariat, des conseils qui sont évidemment très importants. Nous ne sommes pas tous des juristes du Codex et nous sommes sujets à erreur. Ça a été le cas parfois d'ailleurs. On nous informe qu'un groupe de travail ne peut pas être restreint à un membre de chaque région.
I might...
Bon, j'essaie, pourtant on me corrige encore. Donc, le groupe de travail ne veut pas être restreint de la façon que j'ai suggéré. C'était une mauvaise compréhension de ma part. Le groupe de travail est ouvert aux coordinateurs et aux membres. Toujours sur la base de ceux qui sont élus et désignés au cours de la semaine prochaine. Mais si on décide qu'un seul membre d'une région participe, cette décision revient à chaque région. Donc voilà ce qu'on va faire. Sinon, on rencontrerait encore davantage de complications. Mais la conséquence directe, c'est qu'il y aura davantage de personnes qui participeront à ce groupe de travail. Mais je suis sûr que la présidente du groupe de travail pourra gérer cela. Et je suis sûr que le membre pour l'Amérique du Nord sera d'accord. Excusez-moi, pardonnez cette confusion. J'espère avoir tout inclus dans mes explications. Le membre pour l'Europe. Merci, Monsieur le Président. Ces conseils juridiques sont-ils fondés sur la règle 5.4 qui nous dit que le comité exécutif peut établir de tels sous-comités parmi ses membres si nécessaire de façon à effectuer ses fonctions dans la mesure le mieux possible. Ces sous-comités devraient être limités en nombre et faire rapport au comité exécutif et peuvent avoir un président et un sous-président. Donc vous avez mentionné un groupe de travail, ensuite vous avez mentionné un sous-comité. Et il semblerait qu'un sous-comité puisse être établi par le CESEXEC et qu'il puisse être limité en nombre, comme vous l'aviez suggéré. Le seul problème, ce serait que le président soit suppléé également par un vice-président du groupe de travail électronique. Donc, bon, évidemment, je m'en tiens au conseil juridique de l'OMS, mais voilà ce que j'ai pu voir. Donc, oui, un groupe de travail ne pourrait pas être établi, mais le CESEXEC pourrait établir un sous-comité pour effectuer certaines des fonctions du CESEXEC. Et on pourrait ensuite, comme vous l'avez proposé, demander une candidature de chaque région. Merci aux membres pour l'Amérique du Nord. Nous avons survolé ces règles. Bon, le membre pour l'Europe, excuse le président, excusez-moi, il commence à se faire tard. C'est la seule excuse que je peux invoquer. Mais c'est une question pertinente. Je n'ose même pas tirer de conclusion à cette heure de la journée. Je vais demander au secrétariat de clarifier la situation pour que l'on puisse mieux comprendre précisément qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, puisqu'on est d'accord quant à l'objectif d'inclusivité des régions et d'efficacité du groupe de travail.
Ok, the legal counsel.
Bon, le conseiller juridique va nous répondre directement, c'est encore mieux. Merci, Monsieur le Président. Alors, exactement. J'ai discuté avec le bureau et le secrétariat de la règle 5, paragraphe 4, qui mentionne donc les comités exec. Peut-être qu'il y a un problème pour ce qui est du président, pour ce qui est des groupes de travail électroniques et des groupes de travail physiques. Tous les membres peuvent se présenter. Ils doivent être représentatifs des membres de la commission. Et je crois comprendre que d'après la pratique, tous les États membres ne peuvent pas faire l'objet d'une restriction. Donc, à la lumière de ce que souhaite faire le comité, je crois que l'option la moins mauvaise serait l'article 5, paragraphe 4. En n'oubliant pas qu'on pourrait avoir un problème avec la présidence, avec celui qui dirigera ce groupe. Merci.
Sorry, delegates, we still had legal consultations.
Désolé. Nous nous sommes consultés et je vais vous donner le résultat de nos délibérations. Et il y avait les pancartes du CCLAC et d'autres. Les pancartes ne sont plus levées, donc j'imagine que vous ne voulez plus intervenir. Ce que je voulais vous dire, c'est que manifestement, il y a quelques complications juridiques. C'est la base légale qui est un petit peu compliquée, donc suite à l'avis donné par le conseiller juridique, eh bien, nous proposons que l'on remette cette décision finale à demain pour avoir le temps de réfléchir. La nuit porte conseil et j'espère que tout le monde sera d'accord avec cette décision. Le membre du Pacifique du Sud-Ouest. Il serait intéressant de savoir pourquoi, mais les États-Unis, l'Amérique du Nord a proposé de faire ou de compiler un document, un projet de document. Donc chacun dans cette salle peut envoyer sa contribution à l'Amérique du Nord d'ici au 1er septembre. L'Amérique du Nord préparera un projet de texte deux mois plus tard. Donc il y aura un projet de texte fin octobre qui sera ensuite diffusé par le secrétariat au comité exécutif, et lorsque ce groupe se réunira après Noël pour discuter de ce projet de texte, eh bien le président ou les vice-présidents pourraient présider cette réunion. Ce ne sera pas plus difficile. Il me semble que c'est une procédure qui est assez simple. Peu importe qu'ils reçoivent une contribution ou 30. Ils se débrouilleront. Merci au Pacifique du Sud-Ouest. Le membre du CCLAC, et ensuite je vais répondre. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, mes excuses, parce que je n'avais pas cette intention. Et en fait, je me limitais à réagir à votre observation. Ça concernait un nombre limité des membres du comité exécutif. Et ensuite, je me suis demandé sur quelle base on pouvait demander simplement un avis à certains membres du comité exécutif. Il ne s'agissait pas de rejeter l'offre des États-Unis dont il faudrait profiter, d'autant plus que c'est le pays qui est toujours à la présidence du Codex et qui, d'une certaine manière, a pris en charge ce plan stratégique 2008-2013, et donc je suis d'accord avec l'Australie. Si on confie à un membre du comité exécutif cette tâche, sans qu'il soit nécessaire de créer un sous-comité, eh bien je pense que le travail pourrait être fait de manière tout à fait satisfaisante. Merci.
Thank you.
Merci au CCLAC. Pour commencer, je voudrais dire que vous n'avez pas à vous excuser parce que toutes vos interventions sont tout à fait légitimes et nous, tout ce qu'on veut faire, c'est faire les choses en bonne et due forme. Maintenant, pour ce qui est de l'intervention du membre du Pacifique du Sud-Ouest, au début, je pensais que j'étais d'accord avec vous parce que c'est vrai que vous avez fait une proposition qui était simple, mais le conseil juridique me dit qu'il serait peut-être sage d'attendre demain. Pour éviter qu'il n'y ait d'objections éventuellement par la suite. Et donc je reste sur ma proposition. Étant donné que nous avons discuté assez longuement de ce point, eh bien je propose simplement d'attendre la nuit porte conseil et puis demain on prendra une décision définitive. J'espère qu'il ne faudra pas plus de deux minutes pour décider s'il y aura un groupe de travail ou un sous-comité et tout ce qu'on veut faire c'est être sûr de faire les choses comme il se doit. Conseiller juridique. Oui, rapidement. Si j'interprète le cadre légal qui s'applique au Codex, c'est que les directives relatives au groupe de travail électronique concernent essentiellement les comités techniques et non pas les comités exécutifs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé mon avis sur la règle ou sur l'article 5.4. Quand on en a parlé il y a 5 minutes, eh bien, on m'a appris que dans le passé, apparemment, le comité exécutif avait constitué un groupe de travail. Donc je voudrais simplement poursuivre ma recherche pour que ensuite le comité exécutif puisse faire ce qu'il souhaite faire. Donc ce n'est pas pour entraver votre travail, au contraire. Je tiendrai compte également de la proposition qui a été faite par le délégué du Pacifique du Sud-Ouest. Donc il s'agirait d'une sorte de rencontre informelle qui ne serait ni un sous-comité ni un groupe de travail. Et donc en fait je suis vraiment là pour vous faciliter la tâche et non pas le contraire. Donc si vous le permettez, je voudrais également réfléchir encore un petit peu. Et puis bon, il faut laisser partir les interprètes qui doivent terminer à 5h30. Donc ce serait peut-être pas mal justement qu'on prenne une décision demain. Merci. Merci au conseiller juridique. Donc on vous donnera les minutes dont vous avez besoin. Donc on en reste à ce que j'avais proposé tout à l'heure. Merci.
And this means,
ce qui veut dire, bon, j'aurais souhaité dire qu'on a terminé l'examen de ce point de l'ordre du jour, mais non, on va devoir continuer demain, donc on va lever la séance maintenant. Je vous revois demain matin à 9h30, et donc on va terminer la discussion sur ce point de l'ordre du jour, et puis il me reste à vous souhaiter quand même une bonne soirée à Genève, même s'il n'y a pas de soleil, mais enfin, profitez-en. Merci et bonne soirée. À demain.